VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le sommet du G7 s'ouvre demain samedi à Biarritz, dans le sud de la France. De l'Iran au commerce, en passant par le Brexit, les 7 grandes puissances démocratiques et industrielles sont appelées à resserrer les lignes de fracture. Et le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson fera ses débuts dans la cour des grands de ce monde. Il va tenter de donner une image positive au Brexit et il espère pouvoir négocier un accord commercial avec les États-Unis. La lune de miel sera de courte durée avec toutes les craintes d'une sortie de l'Union européenne sans accord. À Londres, le reportage de Henry Riguel, récit Michel Joseph.
De longs retards dans les ports et aéroports, des pénuries de produits frais, de médicaments et de carburant, des révoltes et manifestations avec un possible retour de la violence en Irlande du Nord. Ce sont là les scénarios apocalyptiques du gouvernement britannique sur ce qui pourrait se passer si la Grande-Bretagne se retire de l'Union européenne sans accord à la fin octobre. Le document divulgué aux médias britanniques a été écrit il y a 3 semaines. Pour le Premier ministre Boris Johnson, ce document est simplement obsolète.
Il y aura peut-être des obstacles sur la route, mais nous serons prêts le 31 octobre, avec ou sans accord. Bien sûr, pour l'instant, nos amis et partenaires de l'autre côté de la Manche sont un peu réticents à changer de position, mais je reste convaincu qu'ils le feront.
Bruxelles affirme que Londres n'a pas proposé de solution juridiquement faisable entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Boris Johnson ne veut pas d'un backstop, cette clause de sauvegarde qui doit prévenir le rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord après le Brexit. Cette semaine, il se rend en Allemagne et en France pour des entretiens avant le sommet du G7 samedi à Biarritz en France. Tim Oliver de l'Université de Loughborough à Londres.
This is part of a strategy to make it look like...
Cela fait partie d'une stratégie pour donner l'impression qu'il est vraiment sérieux au sujet d'un Brexit sans accord. Nous saurons si c'est vrai à la fin septembre. À cette date, nous allons commencer à voir si la Grande-Bretagne va demander une prolongation ou appeler à des élections générales, si Boris Johnson va devoir rebrousser chemin ou faire un autre mouvement. Il n'en est qu'aux premières phases de sa lune de miel.
En cette période, le dirigeant britannique lorgne de l'autre côté de l'Atlantique pour trouver un nouveau partenaire. Il va rencontrer pour la première fois le président américain Donald Trump au sommet du G7. Les deux hommes ont déjà dit vouloir un accord commercial rapide. D'autres leaders du G7 craignent l'onde de choc d'un Brexit sans accord et diront probablement au nouveau Premier ministre britannique qu'il est sur la mauvaise voie. L'analyste John Curtin du groupe de recherche sur le G7 à l'Université de Toronto.
Tout le monde dira, regardez Boris, avez-vous perdu la tête? L'économie britannique est en train de plonger dans une croissance négative.
Mais comme Boris Johnson est sur plusieurs fronts en même temps, il est peu probable que d'autres leaders du G7 arrivent à le persuader de changer de cap. Selon les analystes, sa stratégie est d'espérer des signaux à la dernière minute de l'Union européenne, sinon blâmer l'intransigeance de Bruxelles pour le chaos d'un Brexit sans accord.
Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a été libéré de prison aujourd'hui après 30 jours passés en détention pour des appels à manifester dans le cadre d'un important mouvement de contestation qui secoue Moscou. Monsieur Navalny est sorti de prison souriant, vêtu d'un pull et pantalon de sport sombre avec un sale sur les épaules. Le président italien Sergio Mattarella a accordé un nouveau délai jusqu'à mardi aux formations politiques pour trouver une majorité capable de gouverner l'Italie. Mardi, je tiendrai de nouvelles consultations pour prendre les décisions nécessaires, a déclaré Monsieur Mattarella en soulignant que la seule possibilité était un gouvernement qui obtienne la confiance du Parlement sur la base d'un programme. Ici, aux États-Unis, le patron de la Banque centrale fédérale va prononcer aujourd'hui à Jackson Hole, dans le Wyoming, un discours crucial et tenter d'expliquer son plan pour préserver la croissance de la première économie mondiale. Eric Manirakiza.
Les marchés boursiers seront très attentifs. Le président de la Fed, Jerome Powell, va s'exprimer pour la première fois depuis la baisse des taux de fin juillet. Les marchés qui attendent la confirmation de leur anticipation sur une baisse des taux comme le président Trump, partisan d'une forte réduction des taux d'intérêt, vont analyser ses moindres mots. Monsieur Trump a souvent accusé le patron de la Fed de désavantager les États-Unis face aux concurrents. L'économie américaine montre actuellement des signes mitigés, mêlant une solide consommation et des investissements décevants et frileux face aux tensions commerciales et à l'affaiblissement de la croissance mondiale. Monsieur Powell s'efforce d'accompagner la faible inflation et de prolonger la plus longue croissance américaine de l'histoire en accordant ce qu'il a appelé un ajustement de milieu de cycle sans promettre une série de baisses des taux. La prochaine réunion de la Banque centrale est prévue dans 3 semaines, les 17 et 18 septembre, et les marchés s'attendent largement à une nouvelle baisse des taux d'intérêt.
Les États-Unis et les talibans afghans ont repris hier leurs négociations au Qatar avec pour objectif d'aboutir à un accord historique qui permettrait le retrait des soldats américains d'Afghanistan après 18 ans de conflit. L'accord espéré devrait prévoir le retrait de plus de 13 000 soldats américains d'Afghanistan avec un calendrier à la clé. Il s'agit de la principale revendication des talibans qui s'engageraient en retour à ce que les territoires qu'ils contrôlent ne puissent plus être utilisés par des organisations terroristes.
Nos infos sur voaafrique.com.
Washington, 7h06. Les autorités américaines ont annoncé hier le démantèlement d'un vaste réseau international d'escrocs nigérians. Pour la plupart, ils sont accusés d'avoir dérobé des millions de dollars à des entreprises, des utilisateurs de sites de rencontres et des personnes âgées. Et Kiabadiou.
80 personnes sont inculpées dans cette affaire, dont 14 ont été arrêtées sur le territoire américain, principalement dans la région de Los Angeles, a précisé Nick Hanna, procureur fédéral pour la Californie. Les autres suspects sont encore en liberté, pour la plupart au Nigeria. Les inculpés et d'autres complices sont accusés d'avoir utilisé diverses formes d'escroquerie sur Internet, arnaque au président, manipulation sentimentale sur des sites de rencontres aux États-Unis et partout dans le monde. Certaines des victimes ont perdu des centaines de milliers de dollars et beaucoup étaient âgés, révèlent les services du procureur. De telles arnaques font perdre des milliards de dollars chaque année, a déclaré Paul Delacour, un responsable du FBI, la police fédérale à Los Angeles. Pour blanchir l'argent, le réseau avait recours à 2 ressortissants nigérians résidant aux États-Unis, Valentin Hiro, 31 ans, et Chukwudi Gbokwe, 38 ans. Les 2 hommes sont accusés d'avoir organisé le transfert d'au moins 6 millions de dollars sur des comptes hors des États-Unis.
Et 17 personnes au Nigeria ont été tuées dans une collision d'un minibus et d'un camion sur une route du centre du pays à la suite d'un excès de vitesse. Le choc s'est produit sur l'axe Ilorin-Djeba-Bokwa dans l'est du Kwara, dans l'état du Kwara, entre le bus de 18 passagers et le camion qui transportait un conteneur. Le choc a fait 17 morts parmi les occupants du minibus, tandis que 2 personnes qui étaient à bord du camion ont été blessés. Le chef de l'État gambien, Adama Barrow, a remanié jeudi son gouvernement, notamment un ministre de la Défense, pour la première fois depuis 22 ans, et un ancien chef de la police controversé à l'intérieur a annoncé la présidence dans un communiqué. M. Barrow a désigné donc comme ministre de la Défense Cheikh Omar Faye. Il était consul général jusque-là de la Gambie à Jeddah, c'est en Arabie Saoudite, selon le communiqué. Et puis depuis 1997, d'abord Souye Agame qui a dirigé ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, puis sous son successeur, l'actuel président Adama Barrow, les prérogatives du ministère de la Défense étaient directement exercées par le président. Une comédienne et satiriste populaire au Zimbabwe, Samantha Kuria Dingonyeti, a affirmé jeudi avoir été enlevée de son domicile à Harare et battue par des inconnus, devenant la dernière critique en date du gouvernement à avoir été agressé ces dernières semaines. Et puis le chef du gouvernement tunisien Youssouf Chahed, l'un des principaux candidats à la présidentielle anticipée du 15 septembre, a annoncé jeudi avoir délégué ses pouvoirs pour se consacrer à sa campagne électorale. Cette décision a été prise dans le souci d'assurer la transparence dans le processus électoral et pour éviter tout conflit d'intérêts, a dit M. Chahed, devenu en 2016, à 40 ans, le plus jeune premier ministre de la Tunisie. Le premier tour du scrutin présidentiel en Tunisie aura lieu le 15 septembre. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.